Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'actualité mondiale des dernières années a été bouleversée. De la pandémie de Covid-19, à la guerre en Ukraine et ailleurs, en passant par les risques de crise économique mondiale et la quasi-certitude d'une crise écologique et climatique planétaire, tous les ingrédients sont réunis pour créer une certaine anxiété, un sentiment de catastrophe imminente. Et la question qu'on se pose souvent en période de crise revient avec une acuité plus grande que jamais. Mais où est-ce qu'on s'en va? Où va notre monde? Qu'est-ce qui est devant nous? La Terre et l'humanité ont-elles un avenir? Bonjour à tous et bienvenue dans Il est écrit. Aujourd'hui, nous parlons de l'avenir de notre monde, notre avenir, celui de nos enfants, de nos petits-enfants. Alors soyons honnêtes, les questions que j'ai posées en introduction ne sont pas nouvelles. Il y a depuis longtemps chez les humains une appréhension face à l'avenir, à l'inconnu. Et il y a souvent eu des peurs, raisonnables ou irrationnelles, en période de crise. Bien en face d'échéances symboliques comme l'an 1000 ou l'an 2000, par exemple. Il y a toujours eu des crises, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des cataclysmes et des épidémies. Il y a eu des crises majeures dans l'histoire de l'humanité. Il suffit de se souvenir des deux dernières guerres mondiales. Alors, est-ce que ces questions sur l'avenir de notre planète ne sont pas un peu exagérées? Sans vouloir créer une atmosphère anxiogène, il faut quand même reconnaître que cette fois-ci, en ce début de XXIe siècle, il y a quelque chose de particulier, d'unique, du jamais vu dans l'histoire humaine. Ce dont on a pris conscience de manière aiguë pendant l'épisode Covid, c'est que sur bien des points aujourd'hui, toutes les régions du monde sont interreliées, interconnectées. Contrairement à la réalité d'il y a un siècle ou deux, ce qui se passe à un point donné du globe affecte parfois fortement toute la planète. Bien des phénomènes ont une portée tout simplement planétaire, et c'est un peu comme si on craignait qu'une bombe explose quelque part et ne provoque une onde de choc partout dans le monde. En fait, il y a en ce moment plusieurs bombes susceptibles d'exploser et de mener l'humanité à la catastrophe. Il y a bien sûr la bombe, ou plutôt les bombes au sens premier du terme. Tout l'arsenal militaire effrayant qui est stocké à travers le monde et qui peut à tout moment créer une déflagration fatale. Vous savez, même si le nombre de bombes atomiques a bien diminué depuis la fin des années 1980, il en reste encore suffisamment pour faire pas mal de dégâts. On estime qu'il y aurait environ 13 000 ogives nucléaires dans le monde, réparties entre 9 nations qui se sont dotées de cette arme. Et nous sommes plutôt dans une phase ascendante de réarmement. La Russie et les États-Unis détiennent l'immense majorité de ces ogives nucléaires. Donc il faut rappeler qu'elles ont aujourd'hui une puissance bien plus grande, 50 fois plus grande, que celles qui ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quand on se souvient des dégâts et des souffrances provoquées par ces petites bombes atomiques en 1945, on imagine les dégâts potentiels de nos bombes modernes. En fait, une association spécialisée estime que l'explosion de 1000 têtes nucléaires suffirait à rendre notre planète totalement inhabitable. Il y en a près de 13 000 aujourd'hui dans le monde. Et je n'ai pas parlé des autres armes, stratégiques, biologiques, hypersoniques. On vit vraiment sur une poudrière. Mais il y a d'autres bombes planétaires qui sont susceptibles d'exploser dans un avenir relativement proche, parfois avec une probabilité plus grande que l'explosion nucléaire. La double bombe écologique et climatique fait partie de celles qui inquiètent le plus les observateurs. À juste titre d'ailleurs, parce que malgré de belles déclarations d'intention et quelques efforts louables, globalement, la pollution dans le monde reste majeure et va croissant. La pollution des océans en particulier est dramatique. Que ce soit par les produits chimiques et industriels, les déchets domestiques ou les matières plastiques. Les océans sont devenus de véritables dépotoirs. Voici une déclaration récente de l'association Greenpeace. Chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique est déversé dans l'océan. Ces 10 dernières années dans le monde, l'industrie a produit plus de plastique que durant les 100 années précédentes. L'ampleur de la contamination du milieu marin par les déchets plastiques est énorme. Une fois dans l'océan, il est très difficile, voire impossible, de nettoyer ces déchets. Ils flottent dans tous les océans du monde, des régions polaires à l'équateur, à toutes les profondeurs. La pollution de l'air sous toutes ses formes n'est pas moins préoccupante. On entend parler sans cesse des fameux gaz à effet de serre qui retiennent la chaleur du soleil et qui contribuent à réchauffer la planète. Et on sait que l'augmentation constante de ces gaz à effet de serre provient majoritairement de l'activité humaine, que ce soit par les industries, certaines formes de production d'électricité, les moyens de transport, la déforestation ou l'élevage intensif, entre autres. Les conséquences annoncées et déjà visibles du réchauffement climatique incluent l'élévation du niveau des océans et l'inondation de certaines régions côtières, parfois très peuplées. On s'attend aussi à une augmentation des sécheresses, des zones désertiques. Parallèlement, des phénomènes météorologiques extrêmes risquent de se manifester un peu partout sur la planète. Tout ça va provoquer des catastrophes sans précédent, des famines, des déplacements de population. Une autre bombe prête à exploser. Et je pourrais encore mentionner d'autres bombes de portée mondiale qui menacent l'avenir de l'humanité et de la Terre. La bombe biologique, avec ses nouvelles maladies, ses épidémies à grande échelle, dont le Covid-19 était une illustration. La bombe démographique, puisqu'on vient de passer la barre des 8 milliards d'humains sur la planète Terre, et que ce nombre va continuer à augmenter, avec des défis majeurs sur le plan alimentaire, social, migratoire. Puis bien sûr, il y a la bombe économique, qui pourrait bien exploser à l'occasion d'une crise mondiale, entraînant de grandes inégalités et des troubles sociaux majeurs. Laquelle de ces bombes explosera en premier ? Ou bien vont-elles toutes exploser simultanément dans une espèce de déflagration planétaire en forme de fin du monde? Face à cette question, il y a les optimistes, ceux qui disent « Écoutez, le monde en a vu d'autres. L'être humain s'est toujours adapté, on va s'en sortir. » De l'autre côté, il y a les pessimistes qui pensent « On est allé trop loin, c'est foutu, on va à la catastrophe. » Puis il y a les entre-deux qui se disent « On est en danger, si on ne fait rien, ça sera terrible, mais on peut encore sauver l'humanité et la planète. » Où se situe la Bible dans tout ça? Que disent les prophéties bibliques? Est-ce qu'elles sont optimistes, pessimistes, entre-deux? Sur le sujet de l'avenir de notre monde, la Bible n'est certainement pas entre-deux. Elle est en fait très pessimiste et résolument optimiste. Permettez-moi d'expliquer cet apparent paradoxe. Côté pile, le message biblique est pessimiste. Il est pessimiste parce qu'il nous explique que l'usine à fabriquer les bombes, toutes les sortes de bombes, c'est le cœur humain. C'était déjà le message des prophètes de l'Ancien Testament, et je pense à cette déclaration du prophète Jérémie au chapitre 17 de son livre, les versets 5 et les versets 9. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ? Autrement dit, la racine du problème, c'est la nature humaine. Et tous les problèmes planétaires auxquels on fait face aujourd'hui trouvent largement leur origine dans les cœurs égoïstes, orgueilleux, impurs, ceux des dirigeants de notre monde, comme ceux de la majorité des humains qui peuplent la planète. Alors vouloir désamorcer les bombes qui nous menacent sans démanteler l'usine qui les fabrique, c'est sans espoir. Comme le dit le Christ dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 15 et au verset 19. Car c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Voilà ce qui souille l'homme. Vous voyez, le regard que Dieu porte sur l'humanité est bien différent de celui qu'elle porte sur elle-même. L'homme du XXIe siècle a l'impression d'être bien plus évolué que ses ancêtres. Et il ne fait aucun doute que du point de vue des connaissances et des techniques, la progression durant les derniers siècles a été fulgurante. Mais sur le plan moral et spirituel, l'humanité est tout aussi corrompue que par le passé. Alors avec une humanité dont le cœur est toujours corrompu par le mal, qui majoritairement refuse le chemin tracé par Dieu et qui en plus se dote de moyens techniques de plus en plus puissants, ça ne peut pas aller vers le mieux, malgré quelques belles réalisations ici et là. Selon la Bible, globalement, l'histoire humaine est descendante. Nous n'allons pas vers des jours meilleurs. Que disent les prophéties bibliques par rapport aux temps qui sont devant nous? Vers quoi allons-nous? Bon, il faudrait plusieurs émissions pour aller dans les détails, mais je partage juste avec vous quelques grandes lignes. D'abord, nous allons vers un grand conflit moral et spirituel et la mise en place d'une sorte de nouvel ordre mondial, un ordre politico-spirituel autoritaire mais séduisant qui voudra imposer ses lois à tous. C'est ce que décrit le livre de l'Apocalypse au chapitre 13. Apocalypse, chapitre 13, à partir du verset 11. « Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. » Côté pile, pessimiste toujours, nous allons aussi vers une période de grande détresse. La Bible nous dit clairement que nous n'allons pas sauver la planète, mais que les cataclysmes redoutés vont bel et bien se produire. C'est ce que prédit le Christ dans l'un de ses derniers messages adressés à ses disciples qu'on trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 21. Luc 21, les versets 25 et 26. Il y aura sur la terre une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Cette parole prophétique du Christ semble bien nous dire que nous allons vers une période où la mer et les océans provoqueront des dégâts sans précédent, où l'humanité sera dans l'angoisse à cause des cataclysmes qui menaceront sa survie. D'ailleurs, ce que la Bible appelle la période finale est caractérisé par une grande détresse, selon les termes même du Christ, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24, je lis le verset 21. « Car alors il y aura une grande détresse, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. » Un déclin moral et spirituel, une puissance mondiale qui impose ses lois tout en séduisant le monde, des cataclysmes à grande échelle et une grande détresse. Non, décidément, la Bible n'est pas optimiste quant à l'avenir de notre monde. Et pourtant, Et pourtant, au milieu de ce marasme, il y a deux grandes raisons d'être optimiste, d'être positif, d'être plein d'espoir. La première, c'est que dans cette dernière période de l'histoire humaine, Dieu va être à l'œuvre comme jamais auparavant. Le Créateur aime ses créatures. Il ne peut pas les laisser aller à la ruine sans leur lancer un appel puissant au changement de vie, au changement de cœur. Cet appel sera tellement puissant qu'il sera entendu partout dans le monde. C'est la promesse que fait Jésus lui-même, toujours dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24 et au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La bonne nouvelle de l'amour de Dieu, de la venue de son royaume, la bonne nouvelle que chacun peut faire partie de ce royaume en recevant le pardon de ses fautes grâce à Jésus-Christ, la bonne nouvelle qu'un cœur transformé peut nous être donné, tout ça va résonner plus fort que jamais à travers le monde. Beaucoup vont s'y opposer, c'est sûr. Il y aura un grand combat moral et spirituel, comme on l'a déjà dit. Mais au sein même de ce combat, au cœur de persécutions parfois, des milliers, des millions d'hommes et de femmes vont répondre à l'appel de Dieu et trouver le chemin de la vie éternelle. Il va se répéter à plus grande échelle ce qui s'est passé au début de l'histoire du christianisme. Vous vous souvenez quand, sous l'action puissante du Saint-Esprit, des milliers de juifs et de non-juifs sont devenus des disciples du Christ, des chrétiens enthousiastes, aimants, fidèles, malgré les oppositions et les persécutions. Tertullien, un auteur chrétien de la fin du IIe siècle, pouvait affirmer « Condamnez-nous, torturez-nous, broyez-nous, nous croissons en nombre à mesure que vous nous moissonnez. Le sang des chrétiens est une semence. » Au milieu de la détresse qui touchera l'humanité et des persécutions qui toucheront les croyants fidèles, la présence de Dieu va se manifester pour fortifier tous ceux qui lui appartiennent. La lumière brillera comme jamais dans les ténèbres. Voilà pourquoi la dernière période de l'histoire humaine est à la fois terrible et exaltante. Nous vivons une période terrible et exaltante. Et le plus exaltant, la raison ultime d'être optimiste, c'est que finalement, au moment que lui seul connaît, Dieu va intervenir pour mettre fin à cette histoire, pour juger les hommes, pour détruire le mal et ceux qui font le mal, pour purifier la terre et pour instaurer une nouvelle terre. La bonne nouvelle que je partage avec vous aujourd'hui, celle que nous donne la Bible, c'est que l'histoire humaine ne se terminera pas par un holocauste nucléaire, ni par un cataclysme mondial dû au réchauffement climatique, ni par une série de pandémies mortelles, ni par un clash avec un astéroïde. Notre histoire se conclura par une intervention divine pour sauver tous ceux dont le cœur aura été changé et pour restaurer la terre. Je lis encore dans l'Évangile selon Matthieu, toujours au chapitre 24. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, se trouve cette promesse extraordinaire. Apocalypse 21, versets 1 à 4. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Voilà ultimement où va notre monde. Et voilà pourquoi le message de la Bible, même s'il nous annonce des convulsions lors des dernières heures de la Terre, ce message de la Bible est résolument optimiste. Alors il appartient à chacun de nous de faire le choix d'être de ceux qui vivront sur cette terre restaurée, en acceptant dès maintenant que notre cœur soit restauré à l'image de notre Sauveur. Personnellement, j'ai une grande paix face aux événements difficiles qui nous attendent. Dieu les a prédits pour qu'on s'y prépare, mais je sais aussi qu'il garde le contrôle de l'histoire de ce monde et qu'il aura le dernier mot. Ma vie est entre ses mains, je lui fais entièrement confiance, en m'appuyant sur la promesse de Jésus dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21 et au verset 28. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous, levez la tête, parce que votre délivrance approche. Seigneur Jésus, tu nous as dit que votre cœur ne soit pas troublé. Ayez confiance en Dieu, ayez confiance en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Face aux événements de ce monde, mets dans notre cœur cette paix qui vient de toi, sachant que tu nous prépares une place, que tu nous gardes tout près de toi et que bientôt, la victoire sera éclatante. Prépare-nous pour cette terre restaurée, préparée pour tous tes enfants. C'est notre prière en ton nom. Amen. C'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve mes deux compères habituels. Bonjour France.
Bonjour Rémi.
Et bonjour Alberto.
Bonjour.
Allô Alberto.
Et je remarque qu'on a choisi les bonnes couleurs cette semaine.
Nous avons été inspirés aujourd'hui, Rémi.
Alors, on commence avec toi, Alberto, avec une offre de la semaine qui est quelque chose de tout à fait nouveau pour nos auditeurs.
Voilà, c'est la première fois qu'on le présente. Donc, le titre, Il y a des réponses. Puis c'est un ouvrage qui a été écrit par un pasteur, évangéliste, un conférencier péruvien, Alejandro Bullion. Puis, il a écrit ce petit livre en disant « Il y a des réponses à des questions fondamentales que l'on a en tant que personne, en tant qu'être humain. » Puis, il y en a 12 questions qu'il va répondre. Les trois derniers sont un lien direct avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, je lis les titres. « Un nouvel ordre mondial. Quand viendra la fin du monde? Une nouvelle terre. »
Ça, c'est directement en lien avec notre sujet.
Voilà. Et puis, il y a d'autres chapitres aussi qui vont toucher d'autres sujets, d'autres questions. J'en lis quelques-unes. Pourquoi la douleur, la souffrance et la mort? Dieu peut-il changer ma vie? Est-il possible d'être heureux? Est-il nécessaire d'avoir une famille? Comment avoir une longue vie de qualité? Entre autres.
Donc, beaucoup de questions très, très fondamentales. Puis, Alejandro Bullion, de ce que je connais de lui, généralement, c'est quelqu'un qui a des réponses bibliques puis très profondes.
Voilà. Profondes, puis en même temps simples à comprendre.
Pour tout le monde.
Voilà, ouais. Pour tout le monde. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé de cet ouvrage, c'est il y a beaucoup d'images, puis aussi, si on peut appeler, une boîte à outils. Dans chaque chapitre, on retrouve plusieurs de ces boîtes-là où est-ce qu'il y a de l'information en lien avec le sujet. Toujours avec
additionnel.
Voilà, de l'information qui va nous aider dans notre vie spirituelle.
Donc, il y a des réponses. Ça, c'est le titre de l'ouvrage. Oui. Réponse à 12 questions fondamentales. Un livre qu'on propose pour combien, Alberto?
Pour 15 $ plus les frais de poste.
Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine.
Il est beau, hein? Il est très imagé.
Oui, tout à fait. Ouais.
France,
oui.
Rapidement, question d'auditrice.
Absolument. Nathalie de Thetford Minds nous dit « Bonjour, c'est une question au sujet de la fin des temps. Comment distinguer les faux prophètes qui feront de petits miracles pour éblouir? »
Ouais.
Comment distinguer
parce
les faux prophètes?
Parce que le Christ a dit à ses disciples, il a dit « Dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Ils feront des miracles.
Ouais. Donc, mais pas juste des petits miracles.
Oui.
Des grands miracles.
Pas seulement des petits miracles, comme dit Nathalie.
Oui.
Mais il y aura aussi des signes extraordinaires.
Ouais.
Comment est-ce qu'on reconnaît Parce que Dieu fait aussi des miracles.
Mm-hmm, absolument.
Comment est-ce qu'on reconnaît un vrai prophète d'un faux prophète? Qu'est-ce que toi, tu aurais tendance à répondre?
Ben moi, les premières réponses qui me sont venues, c'est bien sûr, c'est important que le prophète mette l'attention sur Christ et sur Dieu plutôt que sur lui. Donc, l'humilité du prophète qui vraiment attire les gens vers Dieu plutôt que vers lui. Ça, c'était un des points qui m'est venu à l'esprit. Et le second, c'est la vie du prophète, ses enseignements, son comportement.
Sa manière d'être.
Donc, est-ce qu'il est conforme lui-même avec les enseignements bibliques, avec la volonté de Dieu? Est-ce que sa vie témoigne?
On s'entend qu'aucun être humain, même prophète, n'est parfait.
Bien sûr.
Mais est-ce que sa vie reflète globalement? Voilà. Alors, c'est intéressant parce que c'est un critère que Jésus lui-même donne. Je vais juste le lire rapidement, France, pour Nathalie. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, Jésus dit ceci au verset 15. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. »
Oui, leurs fruits, à leur comportement.
Alors, c'est ça, qu'est-ce que c'est les fruits?
Oui, comportement, action,
ouais, c'est
manière
ça.
D'être,
manière d'être,
caractère.
Ouais. Ouais.
Et puis, bien sûr, conformité à ce que le Christ a enseigné, conformité à l'enseignement de la Bible. Si un prophète enseigne quelque chose qui est contraire à la Bible, on sait que c'est un faux prophète.
Et parfois, le faux prophète va prendre 99 % de la vérité, mais il peut il y a toujours un mensonge quelque
part.
De là l'importance de connaître la parole de Dieu.
Exactement. Il y aurait quelques autres critères. On n'a pas le temps là maintenant de tous les donner. Mais peut-être pour Nathalie et pour les autres qui se posent la même question, on va mettre en ligne, avec cette émission d'aujourd'hui, on va mettre une fiche en quelque sorte, fiche signalétique du vrai prophète et par contraste du faux prophète.
Ouais.
Puis pour ceux que ça intéresserait, on pourrait même l'envoyer par la poste, le mettre dans le livre, pour ceux qui commanderont le livre, les critères d'un vrai prophète.
Avec les textes bibliques.
Avec les textes bibliques qui correspondent.
Mm-hmm, ouais. Absolument.
Très bonne question, très importante
pour la fin
question
des temps,
de Nathalie.
Ouais.
Merci à elle et puis merci à tous les deux.
Merci à toi.
Voilà, et pour obtenir l'offre de la semaine, il y a des réponses. Voici comment prendre contact avec nous.
Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestecrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Casse Postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X3B6.
Il me reste à vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. N'hésitez pas à réagir au sujet d'aujourd'hui. On apprécie toujours vos messages via Facebook, Instagram, notre site web. C'est toujours un plaisir de vous lire et aussi de pouvoir avoir votre feedback, pouvoir interagir avec vous. La semaine prochaine, tout autre sujet, mais d'ici là, souvenez-vous. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.